Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une résolution sur la situation politique en Tunisie soumise cet après-midi au vote du Parlement européen. La motion invite notamment le président tunisien à abroger d'urgence l'état d'exception et à rétablir immédiatement une démocratie parlementaire. Sur la situation en Tunisie, notre invité sera le député tunisien, ex-dirigeant des Narda, Samir Dilou, qui a quitté le parti et envisage de créer une nouvelle formation politique. C'est aujourd'hui à Tripoli une conférence de soutien à la stabilité de la Libye, une réunion en présence de représentants de nombreux pays étrangers pour consolider le processus de transition. Un rapport publié par la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine dénonce des attaques du gouvernement israélien contre les ONG. Nous écouterons Pierre Motin, responsable plaidoyer de cette plateforme. Une première étape vers la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain en France. Les députés ont adopté le texte qui ouvre cette option. La campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine 2022. Un bon début pour l'Algérie. Les Algériennes se sont imposées face au Soudan 14-0. Une résolution sur la situation politique en Tunisie soumise cet après-midi au vote du Parlement européen. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité estime que la Tunisie se retrouve dans une situation préoccupante. La motion invite notamment le président tunisien à abroger d'urgence l'état d'exception et à rétablir immédiatement une démocratie parlementaire à part entière, le fonctionnement et la séparation des pouvoirs et demande le respect de l'indépendance de la justice. Le président tunisien Kais Saied a suspendu le 25 juillet dernier les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple en invoquant les pouvoirs d'urgence de l'article 80 de la Constitution. Il a nommé ce mois-ci une femme, première ministre, Najla Bouden Ramdan, une nomination saluée par le député tunisien et ex-dirigeant des Narda, Samir Dilou, qui a quitté le parti et envisage de créer une nouvelle formation politique. Entretien avec Samir Dilou, qui déplore vivement la prolongation des mesures d'exception prises par le président tunisien.
Je crois que parmi les rares éléments positifs, c'est le fait d'avoir pour la première fois en Tunisie, peut-être dans le monde arabe, une femme à la tête d'un gouvernement. Mais à part ça, c'est triste que ça se fait dans les conditions qu'on connaît tous, loin de la légitimité constitutionnelle. Donc c'est un pas à saluer, mais c'est très mitigé. J'aurais personnellement préféré que ça se passe dans d'autres conditions.
Loin de la légitimité constitutionnelle, dites-vous, qu'attendez-vous aujourd'hui du président de la République, Kais Saied?
J'attends qu'il respecte la Constitution, mais ça doit se faire auparavant suite à un dialogue national. On est actuellement dans la vision unilatérale. Le président Saïd est à la fois constituant, législateur et il exerce le pouvoir exécutif. Il a mis la main sur tous les pouvoirs, mais pour revenir à la légitimité constitutionnelle, il faut offrir un débat avec les partis politiques, les composantes de la société civile, etc. Mais il a déjà exprimé un peu sa vision, même si on est encore dans le flou. Sa vision du dialogue est très différente de celle exprimée par la centrale syndicale et par les partis politiques. Et il veut dialoguer avec le peuple. Personnellement, j'ai jamais eu une définition de ce qu'est le peuple, à part le peuple qui s'exprime par les urnes.
Et comment vous qualifiez cette stratégie, ce comportement?
Ça se voit que le président de la République apprécie le fait qu'il gouverne seul. D'ailleurs, il a toujours exprimé le fait qu'il se sent un peu emprisonné dans les prérogatives que lui confère la Constitution de 2014. Mais dans toutes les démocraties, si on n'accepte pas ce que dit la Constitution, il faut la respecter et essayer de l'amender ou se présenter à des élections constituantes. Mais ça n'a pas été le cas. Le président de la République s'est basé sur un fait qu'on ne peut pas nier. On vivait pendant de très longs mois dans une crise peut-être sans précédent, mais de là à utiliser cette crise comme alibi pour s'accaparer tous les pouvoirs, c'est une super chose.
Aujourd'hui, les principales préoccupations des Tunisiens sont d'ordre économique et social. Sur ces questions, que préconisez-vous, Samir Dilou?
D'abord, ce qui se passe là-haut, dans les institutions constitutionnelles, la propre vision du président de la République, ça a une incidence directe sur le vécu des Tunisiens. On a des problèmes de trésorerie publique, de finances, etc. Et avec les bailleurs de fonds, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas vivre sans constitution et sans assemblée et demander à ce que les autres nous donnent ou cautionnent avec le FMI. La Tunisie n'est plus citée comme exemple démocratique dans le monde arabe, mais on est en train de débattre de la question tunisienne dans le Congrès américain, à Strasbourg, dans le Parlement européen. Et malheureusement, ça ne nous aide pas. On est montré actuellement comme exemple d'une démocratie chancelante, d'un président qui s'accapare tous les pouvoirs. Et là, on le paye que cash. On ne peut plus discuter avec le FMI. Et même sur le plan bilatéral, on ne peut pas tout avoir sans rien avancer, sans avoir de vision claire sur ce que nous comptons faire. On a une assemblée fermée, mais sans option d'élection dans les mois qui viennent.
Vous faites partie, Samir Dilou, des personnalités qui ont claqué la porte du mouvement Ennahda. Aujourd'hui, quelles sont vos intentions?
Pour le moment, on est des activistes politiques indépendants. On est en train de mener des discussions plus ou moins larges, non seulement avec ceux qui ont claqué la porte, comme vous avez dit, mais avec d'autres personnalités, d'autres horizons. Et si on arrive à se mettre d'accord sur une plateforme, sur un programme, peut-être que ça va se réaliser dans les mois qui viennent et qu'on va fonder un autre parti. Mais pour le moment, notre priorité, c'est de mener avec d'autres Tunisiens une lutte pour retrouver notre démocratie qui a été poignardée par le président de la République.
Ce que vous évoquez, cette future formation politique, quelle serait son idéologie? Quelle est votre vision de cette formation que vous évoquez, qui, pour le moment, vous le rappelez, est uniquement envisagée?
Plus à l'idéologie, à une idéologie ou à une religion comme base d'un parti politique, je crois que, en lisant la préambule de la Constitution tunisienne, c'est largement suffisant. Et je crois que l'âge des partis idéologiques est révolu. Donc, on doit regarder vers l'avant, essayer de rassembler des gens qui partagent avec nous cette vision de la Tunisie, pencher vers l'avenir et pas sur le passé.
En mettant l'accent sur la jeunesse également?
Sur la jeunesse, sur la femme, sur la modernité. Bien sûr, en respectant notre histoire et notre identité.
Donc un parti sans idéologie religieuse, c'est aussi ce que vous dites?
Parfaitement.
Les membres de ce parti ne se limiteraient pas aux démissionnaires du mouvement Ennahda? Vous entendez rassembler au-delà?
Ah oui, ce ne serait pas un recyclage des démissionnaires d'Ennahda, mais plutôt on va essayer de discuter, de parler avec le maximum de nos concitoyens qui partagent avec nous cette vision et cette aspiration.
Et vous nous dites que ce n'est pas aujourd'hui, pour le moment, votre priorité?
Ah oui, notre priorité, c'est la lutte pour retrouver notre démocratie et en parallèle de mener des discussions qui peuvent mener d'ici quelques mois vers la création d'un parti.
Et vous demandez également la tenue d'élections législatives anticipées?
Oui, mais on ne peut pas avoir une démocratie sans élections, sans assemblée. Actuellement, tous les pouvoirs sont accaparés par le président de la République et ça ne peut pas durer. Il faut mener des pourparlers, un dialogue national et il faut plus de visibilité pour au moins pouvoir juger si on est dans une période de transition ou c'est une dictature de fait.
Le député tunisien, ex-dirigeant, ex-membre d'ENARDA, Samir Dilou. Une conférence de soutien à la stabilité de la Libye est organisée aujourd'hui à Tripoli, une réunion en présence de représentants de nombreux pays étrangers pour consolider le processus de transition. Elle a lieu à 2 mois d'une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays. Parmi les participants, la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, le chef de la mission onusienne en Libye, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, des représentants de l'Italie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, de l'Algérie, de la Tunisie, du Tchad et du Soudan doivent également y assister. Un rapport publié par la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine dénonce des attaques du gouvernement israélien contre les ONG. Ce document met en lumière des stratégies de délégitimation de la défense des Palestiniens. Entretien avec Pierre Motin, responsable plaidoyer de cette plateforme.
Ces attaques de délégitimation contre les personnes et les associations qui défendent les droits des Palestiniens se traduisent par des accusations d'appel à la haine, donc d'antisémitisme, des accusations de soutien au terrorisme, de troubles à l'ordre public. Ça, c'est le principal type d'attaque. Ensuite, ça peut aussi se traduire par des poursuites judiciaires, l'annulation ou la modification d'événements académiques, culturels, des pressions sur des acteurs publics comme le gouvernement ou des collectivités locales, et aussi des attaques sur les ressources financières des associations.
Vous rappelez que critiquer le gouvernement israélien n'est pas un appel à la haine.
Non, critiquer le gouvernement israélien n'est absolument pas un appel à la haine, c'est une opinion politique. Il n'y a absolument rien d'antisémite à critiquer un gouvernement quel qu'il soit, notamment le gouvernement israélien. Nous, on fait la différence entre l'antisémitisme, qui est un délit puni par la loi, comme tous les racismes en France, et la critique du gouvernement israélien, qui est donc une opinion politique qui se base donc sur l'application du droit international et des droits de l'homme.
Ces pressions qui visent les associations qui défendent les Palestiniens ont-elles augmenté ces dernières années?
Oui, on fait face à une réelle recrudescence de ces attaques de délégitimation. Depuis une dizaine d'années, les efforts que doivent fournir les ONG, les associations, les décideurs politiques qui prennent la défense des Palestiniens ont dû être multipliés. Nous-mêmes, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas à fournir autant de temps pour se défendre et marteler que notre critique du gouvernement israélien et des violations des droits de l'homme par les autorités d'occupation israélienne ne constitue pas un crime d'antisémitisme.
Et comment la comprenez-vous, cette accentuation des pressions?
Nous, on voit ça comme une stratégie vue, et une stratégie voulue par la nébuleuse d'organisations qui défendent le gouvernement israélien en Europe, notamment en France et aux États-Unis. Ça peut être donc des associations, des groupes de pression, des think tanks, des fondations, qui voient dans ces attaques un moyen de faire taire les associations qui défendent les Palestiniens. Leur objectif, c'est de dissuader d'autres personnes ou associations de s'engager dans la défense des Palestiniens, parce que le coût politique devient trop important. Il y a trop d'attaques quand on défend les droits des Palestiniens, donc des associations, des politiques vont s'atteler à d'autres luttes pour les droits de l'homme. On voit ça vraiment comme une stratégie de diversion de la part des autorités israéliennes, notamment du ministère des Affaires stratégiques, qui a été créé en 2006, qui a été intégré en juin dernier au ministère des Affaires étrangères israélien, et de tous les soutiens de la politique israélienne à l'étranger.
Et vous lancez un appel aujourd'hui aux autorités françaises, au gouvernement français ?
Oui, on lance un appel au gouvernement français pour qu'il ne prenne pas en compte, pour argent comptant, ces attaques, pour qu'il les dénonce. Ça a été fait dans d'autres pays, je pense notamment aux Pays-Bas ou au Danemark, où des gouvernements ont clairement indiqué qu'ils n'acceptaient pas le fait que la critique de l'État d'Israël soit assimilée à de l'antisémitisme. Donc oui, c'est un, c'est une de nos principales demandes par rapport au gouvernement français.
Votre mission au sein de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine est de mettre en lumière les difficultés auxquelles les Palestiniens font face. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous faire part de ces principales difficultés aujourd'hui?
Les violations des droits de l'homme vécues par les Palestiniens sont multiples. On peut parler des crimes de guerre qui sont suspectés, notamment pour les bombardements qui ont lieu régulièrement à Gaza, des multiples atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'association pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée, aux multiples violations des droits de l'homme liées à la détention des Palestiniens et notamment des mineurs, avec plusieurs ONG qui considèrent même qu'on peut parler de torture et de mauvais traitements infligés sur les mineurs palestiniens. Malheureusement, là, on voit guère d'embellie en termes de la situation des droits humains en Palestine.
Les intimidations dont vous faites état dans votre rapport sur ces associations qui défendent les droits des Palestiniens, cela a-t-il un impact sur l'aide qui peut être apportée aux Palestiniens et sur le soutien vis-à-vis des Palestiniens?
Nos associations continuent de lutter au quotidien pour aider les Palestiniens, mais il est clair que nous devons investir de plus en plus de temps et de moyens pour nous défendre contre ces intimidations et ces diffamations contre nos associations. Donc, clairement, c'est quelque chose qui a un impact sur notre travail au quotidien.
Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme des ONG françaises pour la défense de la Palestine. Une première étape vers la possibilité de prolonger le pass sanitaire en France jusqu'au 31 juillet prochain. Les députés ont adopté un premier feu vert à un projet de loi qui ouvre cette option. Un texte adopté par seulement 10 voix d'écart, 135 voix pour, 125 contre. Au bout de 2 jours de débat, le projet de loi atterrira au Sénat le 28 octobre prochain. 250 000 foyers privés d'électricité en France après le passage d'une tempête dans le nord et le nord-ouest du pays. Les rafales ont parfois atteint plus de 130 km/h, les rafales qui ont provoqué d'importants dégâts. La campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine 2022, un bon début pour l'Algérie. Les Algériennes se sont imposées face au Soudan 14-0 hier dans le cadre du premier tour aller. Les Tunisiennes ont gagné face à l'Égypte sur le score de 6-2. Le Nigeria a battu le Ghana 2-0. La Côte d'Ivoire s'est imposée face au Niger 9-0. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal, à 19h et 23h. Et si on en parlait, émission consacrée au dernier numéro de la revue politique et parlementaire, numéro consacré à la violence sous toutes ses formes. Les invités d'Alexis Bachelet, Raphaël Rémy Leleu, conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris, et Pierre-Emmanuel Guigaud, historien et coordinateur de la revue. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Bientôt 12h18.